une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'économie en prépa à Rouen, et tous les lundis, je décortique avec vous un sujet d'économie. Aujourd'hui, on reprend nos questions sur la semaine de 4 jours. On a vu la semaine dernière que ça pourrait poursuivre une tendance historique de réduction du temps de travail dans les économies développées. Mais en même temps, c'est compliqué à mettre en œuvre, et ça demande donc des négociations auxquelles peu de gens sont prêts pour l'instant. Cette semaine, on va se demander qui gagne. Les salariés ou les employeurs, ou même tout le monde à la fois. La semaine de 4 jours, est-ce que ça veut dire travailler moins pour gagner plus ? Repartons de ce point de départ. Où est-ce qu'on met en œuvre une semaine de 4 jours et sous quelle forme ? En Islande, je vous en ai déjà dit deux mots, l'expérimentation est un grand succès. En fait, les Islandais et les Islandaises ont à la fois réduit le temps de travail à 35 heures par semaine et ou conclu des accords pour flexibiliser le temps de travail. Ça n'étonne pas beaucoup John Penkavel, économiste à Stanford, que l'on a déjà entendu la semaine passée.
L'expérimentation dont j'ai entendu parler, c'est l'Islande. Et bien sûr, dans ce cas, si je simplifie un peu, les travailleurs ont essayé de réduire le nombre d'heures, mais sans réduction de salaire hebdomadaire. Donc, le salaire horaire a augmenté. Et donc, bien sûr, les travailleurs sont satisfaits. Ce n'est pas surprenant. Je veux dire qu'on n'avait pas besoin d'une expérimentation pour savoir que les travailleurs aiment bien travailler moins sans réduction de paye. Une question intéressante, ce serait de savoir, si on suppose qu'ils travaillent moins, mais avec une réduction de salaire pour compenser, est-ce qu'ils y seront encore favorables ? Et j'aimerais bien lire des choses sur des expérimentations de ce type. Ce serait intéressant d'avoir des observations sur des entreprises qui ont réduit le temps de travail, mais avec des horaires salaires qui n'augmentent pas.
Bon, dit comme ça, c'est vrai que ce n'est pas très surprenant. Mais attention, moins d'heures de travail, ça peut aussi se traduire par une intensification des cadences, une charge de travail aussi élevée, mais en moins de temps. Et la flexibilité ne joue pas toujours en faveur des travailleurs et des travailleuses. On peut regarder du côté de la Belgique pour trouver un exemple de réforme où l'on concentre le temps de travail sur 4 jours plutôt que 5, sans toucher au nombre total d'heures de travail, 38 heures hebdomadaires. Un accord national vient tout juste d'être signé en février 2022. L'idée, ce serait de faire passer les journées de travail de 8h à 9h30. Et paradoxalement, cette réforme a été promue par le gouvernement belge au nom d'un meilleur équilibre vie professionnelle-vie privée. Alors que ça risque de compliquer l'organisation des temps familiaux.
Mais qu'est-ce que c'est que cette escroquerie ?
Pour le dire plus clairement, des journées à rallonge, c'est compliqué pour les crèches, pour les commerces de proximité, pour les cinémas, qui vont devoir ouvrir plus longtemps pour accueillir leurs clients. Par exemple, dans le secteur de l'e-commerce, des entreprises pourraient lancer des expériences de travail entre 20h et minuit, sans accord majoritaire parmi les syndicats. Dans le même temps, le gouvernement belge veut instaurer un droit à la déconnexion pour éviter les mails et les coups de téléphone en dehors des heures de travail. Il sera intéressant de suivre les évaluations auxquelles ça donne lieu, mais on peut craindre que ça soit difficile à concilier et que ça donne lieu à des inégalités d'une entreprise à l'autre. C'est d'ailleurs ce que disent dès maintenant les syndicats belges qui sont dans l'ensemble opposés à cette réforme. C'est curieux tout de même, un gouvernement qui réduit la semaine de travail à 4 jours, mais sans prendre en compte les demandes syndicales, au contraire. C'est l'opposé de ce qu'on a constaté au XXe siècle. Mais ce n'est pas totalement un hasard si le gouvernement belge a lancé ce projet en sortie de crise du Covid, après le confinement. En fait, ce sont les entreprises qui se posent des questions d'organisation du travail. Et notamment des questions sur le télétravail, le présentéisme, la nécessité de retenir leurs salariés dans leur bureau 5 jours par semaine. C'est ce qu'a constaté Philippe Askenazy, économiste au CNRS et à l'ENS.
On peut dire que d'un côté, vous avez une série d'expériences qui viennent de, paradoxalement, on pourrait dire, non pas du tout d'une demande syndicale, mais d'une demande patronale. Voilà, même, je dirais, managériale. Ce sont des expériences en sciences de gestion des ressources humaines qui prennent des exemples, non pas de pays, mais de grandes entreprises. Donc, on peut avoir Microsoft au Japon, Unilever en Nouvelle-Zélande, vous en avez aux quatre coins du monde, qui ont mis en œuvre une semaine, alors une forme de semaine de 4 jours pour répondre à des problématiques, à une multiplicité de problématiques RH. Non pas créer des emplois, mais offrir des conditions de travail qui sont qui serait jugé préférable par les salariés, donc qui permettrait de résoudre des difficultés de recrutement ou des problématiques de turnover, mais aussi d'adresser le problème d'une montée de l'absentéisme que l'on constate un petit peu partout dans les pays de l'OCDE et même son corollaire, le présentéisme.
Dans les entreprises qui peinent à recruter, on observe que les employeurs cherchent à séduire les candidats et les candidates par une meilleure marque employeur, comme on dit chez les DRH. Et la semaine de 4 jours peut en faire partie.
Aie confiance, crois en moi.
Il y a de multiples causes à l'absentéisme dont parle Philippe Askenazy. Des organisations du travail plus stressantes, mais aussi des difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée, ou encore une perte de sens du travail dans les métiers exposés à des réorganisations, par exemple. On peut supposer que les confinements, et plus généralement l'effet global de la crise sanitaire, conduisent beaucoup de travailleurs et de travailleuses à se poser la question de leur engagement dans le travail. Ne plus venir au bureau ou à l'atelier que 4 jours sur 5, c'est déjà ça, si vous avez du mal à endurer vos conditions de travail. Et on a constaté en 2020 qu'environ 40% des emplois étaient télétravaillables, c'est-à-dire pouvaient être faits à distance sans perdre l'essentiel de l'activité. Il y a donc une pression sur les employeurs pour qu'ils laissent des possibilités d'organisation nouvelles à leurs salariés. Mais ce n'est pas tout.
Des éléments en quelque sorte de dysfonctionnement de l'entreprise et en même temps de répondre à d'autres enjeux. Alors dans ces enjeux-là, il y a celui de l'égalité hommes-femmes, voilà, parce que les femmes ont plus tendance à être à temps partiel. Donc si on dit on travaille 4 jours, eh bien on normalise le temps partiel entre les hommes et les femmes. Donc ça peut être aussi un élément de réponse, de rapprochement, de réduction des inégalités au sein de l'entreprise entre les hommes et les femmes. C'est aussi une réflexion autour des questions d'empreinte carbone de l'entreprise et des salariés. Parce que si vous avez des salariés qui sont présents 4 jours par semaine au lieu de 5 dans une entreprise, ça veut dire par exemple pour l'empreinte individuelle de ces salariés qui prennent leur véhicule personnel, mais ils ne prennent que 4 jours par semaine au lieu de 5 pour aller au travail. Donc l'empreinte individuelle du travail serait diminuée. Je ne suis pas en train de dire qu'elle diminuerait nécessairement, parce que si votre jour, vous l'utilisez pour après partir à la plage à 2 heures de route, vous allez augmenter encore votre empreinte. Mais dans la réflexion de l'entreprise elle-même face à ses difficultés RH d'un côté et face à répondre à des enjeux, il y a une forme de convergence que la semaine de 4 jours peut être un élément de réponse. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a un bloc qui est porté, sans d'ailleurs la moindre référence à l'histoire, sans la moindre référence à sciences économiques même, sans la moindre référence aux demandes syndicales, mais avec une vision purement managériale, RH, interne, de ces entreprises. Et donc, ça fait une très grande publicité, parce que vous les retrouvez dans des revues RH, même entre guillemets grand public, comme la Harvard Business Review au mois de septembre dernier, avait fait un peu de regard sur ce que devait être le renouvellement de la RH post-Covid. Voilà. Et dans les 5 grandes idées, il y avait la semaine de 4 jours. Donc, vous voyez, portée par un monde très anglo-saxon américain. Et à côté de cela, vous avez à nouveau des gouvernements qui prennent la main.
De ce point de vue, les réformes portées par des gouvernements peuvent avoir le même point de départ que les initiatives privées de certaines entreprises. En Espagne, par exemple, une expérimentation est en cours pour instaurer une semaine de 32 heures sur 4 jours, testée par 200 entreprises volontaires. Et ces 32 heures seraient payées 40. Ce sera intéressant à suivre. Vous comprenez donc que tout dépend du type d'organisation du temps qui est mis en œuvre. On peut avoir des solutions très favorables aux salariés, lorsque le salaire hebdomadaire est conservé et lorsque la charge de travail reste modérée. Mais on peut aussi observer l'inverse. Il est possible qu'il y ait à la fois des gagnants et des perdants.
En fait, il y a deux visions. Il y en a une qui est de concentrer le temps de travail sur 4 jours. Donc à ce moment-là, ce n'est pas une réduction du temps de travail à proprement parler, c'est de dire vous avez un certain nombre de tâches à effectuer, au lieu de les effectuer sur 5 jours, vous les effectuez sur 4 jours. Donc là, vous voyez, on est d'une certaine manière très loin de ce que peut être la vision historique d'une réduction du temps de travail. N'empêche, si on revient sur la problématique des 35 heures en France, la mise en place justement des salariés au forfait, donc qui concerne essentiellement les cadres, qui sont forfait jour, eh bien le forfait jour signifiait qu'il n'y avait plus de référence horaire. Or, ce que l'on a observé pour ces salariés en forfait jour, c'est que leur durée journalière de travail a augmenté. Et il n'y a pas de signaux que leur durée totale de travail ait diminué. Et pourtant, il y a une satisfaction à ces jours de RTT, etc., parce que ça donne une forme de journée supplémentaire de libération par rapport au travail. Donc, dans cette vision de concentration, on comprend bien que là, les entreprises ont en quelque sorte tout à gagner dans ce schéma-là, puisqu'on va conserver finalement les mêmes tâches et on peut tout à fait justifier le maintien des rémunérations dans un tel cadre, puisque mécaniquement, il ne peut en fait y avoir que des gains de productivité pour l'entreprise, surtout des gains de productivité du capital. Parce que vous voyez, typiquement, si on reste sur des emplois de bureau, si vous avez salarié 4 jours au lieu de 5 jours, vous allez très, très largement gagner sur votre immobilier de bureau, donc des économies de capital. Et donc, en fait, c'est doublement gagnant. Vous gardez la productivité, vous laissez les mêmes salaires et vous faites des économies en termes de capital.
Vous voyez pourquoi les syndicats belges ne sont pas très chauds pour tester ce type de réforme. Dans le meilleur des cas, ça pourrait produire des organisations plus performantes qui pourraient aboutir à de meilleures négociations salariales. Mais à court terme, ce sont les détenteurs de capital qui y gagnent. À l'inverse, celles et ceux dont les horaires de travail ne sont pas étroitement contrôlés par une pointeuse, c'est-à-dire une grosse minorité de la population active salariée de nos jours, pourraient voir leurs horaires augmenter sans contrepartie. En revanche, si vos horaires de travail sont étroitement contrôlés chaque jour, ce qui est le cas de la majorité des ouvriers, des employés et des professions intermédiaires, alors en un sens, c'est plus facile de mettre en œuvre une vraie réduction du temps de travail. Et celle-ci aurait du sens pour les professionnels les plus exposés à un travail intense, donc pénible.
C'est pour ça que les organisations syndicales, mais aussi donc des gouvernements, s'interrogent sur plutôt une réduction à 4 jours qui s'accompagne en même temps d'une réduction du temps travaillé, au moins pour ces salariés où on sait mesurer clairement leur activité liée à une heure travaillée. Voilà, une caissière, une infirmière, on va très clairement faire le lien entre ses heures travaillées et sa production et son activité. Et là, si vous voulez, la perspective, c'est qu'il s'agirait même cette fois-ci de répondre à une problématique non pas immédiate, mais de long terme, qui est le constat de mode d'organisation du travail qui, dans une recherche productive, s'avère bien plus intensif aujourd'hui que ce qui pouvait être dans les années 1980. Je ne suis pas en train de dire que c'est pire que le 19e siècle, absolument pas. Mais voilà, l'usage des technologies en particulier permet une optimisation de l'usage de l'humain, permet une surveillance de l'humain également, un monitoring, si on peut prendre ce terme anglo-saxon, de l'humain qui évacue, par exemple, on parle de densification du temps de travail, on évacue tous les éléments de micro-pause. Or, cette densification, cette intensification du travail, eh bien, est probablement un des facteurs qui explique que l'on a une usure professionnelle qui apparaît de plus en plus jeune dans certaines professions et qui pose un problème tout simplement de, en quelque sorte, soutenabilité du travail, surtout dans une perspective où on veut que, on parle maintenant de réforme une réforme des retraites avec un âge de départ à 65 ans. Dans la situation actuelle, les travaux des sciences du travail diront que vous avez peut-être la moitié, voire les deux tiers des travailleurs qui n'arriveront pas à tenir jusqu'à 65 ans. Voilà, il faut avoir, cette fois-ci, une vision d'une nouvelle organisation des temps, avec potentiellement donc une réduction du temps de travail, dans un objectif de soutenabilité de long terme du travail et de réduction de l'usure professionnelle.
Si l'on suit ce qu'en dit Philippe Askenazy, remettre en chantier une réduction du temps de travail, ça pourrait être l'occasion de prendre au sérieux quelque chose qui est beaucoup trop négligé dans le débat politique en France, la santé au travail. Une caissière de supermarché qui porte 7 tonnes de produits par jour quand elle fait un temps plein, ou un magasinier qui déplace des cartons pour charger des palettes. Ce sont des gens qui peuvent être rapidement usés par leur travail. Et les affections qui en découlent ne sont pas toutes reconnues comme maladies professionnelles. Enfin, elles peuvent l'être en théorie, Mais ce n'est pas toujours le cas en pratique, en partie parce que la médecine du travail et l'inspection du travail sont chroniquement sous-dotées en France. D'ailleurs, les entreprises françaises et la fonction publique sont très peu responsabilisées sur ce sujet, et elles peuvent donc se permettre de ne pas réfléchir très longtemps aux conditions de travail, ni de négocier quoi que ce soit en la matière. Bien sûr, il existe des entreprises qui se soucient du bien-être de leurs salariés, c'est-à-dire de leur santé physique et mentale, en définitive, puisque c'est bien la question qui est posée ici. Mais c'est souvent à l'étranger que ça se passe, pour des cadres, et sur la base d'une initiative privée de la part d'une équipe de direction qui y est sensible. Pour qu'il y ait des négociations sur la santé au travail et les conditions de travail pour d'autres catégories de salariés, il faudrait largement plus d'implication syndicale. Et on n'y est pas encore. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode 82 de Splash, à quoi ça sert de se syndiquer.
Je serai la voix de mes camarades pour vous faire passer le message.
D'abord, nous travaillons plus de 18 heures par jour, ce qui fait 36 heures en deux jours. Nous exigeons de passer à 35 heures.
Alors, on fait le bilan. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la semaine de 4 jours? S'il s'agit seulement d'étaler le même nombre d'heures sur 4 jours et non plus 5, pas sûr que l'on constate des gains de productivité du travail. Et ça rendra plus compliqué l'organisation des temps personnels pour les salariés qui seraient touchés. En revanche, les entreprises peuvent réaliser quelques économies sur l'utilisation de leurs bureaux, par exemple. S'il s'agit en revanche de réduire le nombre d'heures hebdomadaires en passant à 32 heures sur 4 jours, par exemple, alors ça suppose de nouvelles organisations pour gagner en productivité du travail. On peut y arriver de deux manières, soit en intensifiant le travail, soit en réorganisant toute l'activité, comme on l'a fait dans de nombreuses entreprises en 1999, avec le passage à l'annualisation du temps de travail. Dans ce cas, les entreprises sont forcées de se poser des questions d'organisation qui peuvent les amener à une meilleure productivité. Enfin, et dans tous les cas, il faut s'attendre à des conséquences pour l'instant difficiles à mesurer sur la santé au travail. Si je caricature, mais ça va dans le sens des enquêtes sur les conditions de travail depuis 30 ans, on aurait deux extrêmes possibles. D'un côté, des salariés très qualifiés qui pourraient avoir des emplois du temps plus flexibles, donc plus libres, mais avec des débordements possibles entre vie professionnelle et vie privée. C'est déjà le cas pour bon nombre de cadres et de professions intermédiaires, et ça pourrait s'accentuer. D'un autre côté, des salariés moins qualifiés qui seraient toujours autant surveillés et monitorés, mais avec une accélération des rythmes de travail.
Nous exigeons une diminution d'au moins 50%.
Une augmentation, vous voulez dire?
Mais non! Nous exigeons une diminution des coups de fouet. Nous recevons trop de coups de fouet.
En définitive, la semaine de 4 jours n'est peut-être pas une panacée ni la prochaine étape dans la grande histoire de la diminution du temps de travail. Ce qui serait vraiment révolutionnaire, c'est que l'on commence, j'allais dire que l'on recommence, mais en fait ce serait un vrai début, à négocier sur la santé au travail et les conditions de travail. Les employeurs qui veulent vraiment se soucier du bien-être de leurs salariés et qui choisissent d'y mettre les moyens auraient intérêt à le faire. Et ça tombe bien. On est en train de produire des données sur ce qui permet effectivement de préserver de bonnes conditions de travail et de ne pas partir en retraite malade, invalide ou blessé. On va avoir l'occasion d'en reparler dès le prochain épisode de Splash sur la réforme des retraites. Splash est une émission de nouvelles écoutes. Elle est écrite et présentée par moi, Emmanuel Martin, produite par Marine Rowe, coordonnée par Mathilde Jonin avec l'aide de Charlotte Quéré, mixée par Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio.